Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Massimango.
Nous serons à Goma. Une campagne de collecte de fonds en faveur des enfants souffrant de cancer est en cours jusqu'à mi-février. C'est une initiative de l'hôpital général de référence La Charité Maternelle. Ces centres les soignent gratuitement depuis 4 ans, mais cela coûte énormément, d'où l'importance de votre apport. 2 millions d'euros d'aide pour soutenir les communautés touchées par le conflit dans le Sud Kivu. L'Union européenne l'a annoncé hier. Cet apport permettra d'aider les populations les plus vulnérables d'Ouvira, Fizi et Kalehe. Les arrestations en cours en RDC, notamment des opposants politiques, suscitent plusieurs interrogations. Le sujet a été abordé hier dans le magazine Dialogue entre Congolais. Vous suivez les réactions des invités. Bonjour. L'hôpital général de référence, la Charité Maternelle de Goma, vient de lancer une campagne de collecte de fonds en faveur des enfants souffrant du cancer. Depuis 4 ans, cet hôpital soigne gratuitement ses enfants dans son unité d'oncologie pédiatrique et grâce aux contributions des volontaires de l'organisation OEMA. Cependant, les besoins financiers sont immenses, la raison de l'organisation de cette campagne qui va se clôturer le 17 février par une grande journée de charité sous le haut patronage de l'évêque du diocèse de Goma. Le médecin directeur de l'hôpital, la Charité Maternelle, appelle à une solidarité collective pour sauver ses enfants. Au micro de Rosalie Zawadi, Dr Jules Kafitier explique un peu plus pourquoi l'apport de tous est important.
La prise en charge des cancers demande beaucoup. D'abord, seulement les diagnostics. Il faut faire les scanners, il faut faire la biopsie, il faut faire des marqueurs tumoraux. Et ça peut vous prendre plus de $300 juste pour les diagnostics. Après, il faut les traiter. Pour qu'un enfant puisse guérir ici chez nous, selon l'expérience, il faut 4500 à 6000 dollars pour un enfant. Alors, les moyens sont vraiment très limités. C'est pourquoi nous avons lancé cette campagne de collecte de fonds pour que tout le monde prenne conscience que les cancers des enfants existent d'abord et que nous pouvons les traiter chez nous ici. Donc, c'est une structure qui aide beaucoup les enfants pour la prise en charge. Et il faut savoir que c'est une maladie qui prend plusieurs mois, plusieurs années. Et les parents n'arrivent pas à supporter tous les coups. Et des fois, les parents abandonnent les enfants parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et les enfants meurent silencieusement dans la douleur.
Notez que depuis l'installation de son unité d'oncologie pédiatrique en 2022, l'hôpital La Charité Maternelle de Goma a déjà pris en charge 21 enfants malades du cancer. Et parmi eux, 4 sont aujourd'hui déclarés guéris, cependant d'autres qui sont arrivés à un stade très avancé de la maladie n'ont pas pu être sauvés. L'Union européenne fournit une aide de 2 millions d'euros pour soutenir les communautés touchées par le conflit dans le Sud Kivu. Cet apport est en fait une réponse à la recrudescence de la violence et l'augmentation des besoins humanitaires dans cette province. L'Union européenne l'a fait savoir dans un communiqué publié hier mercredi. Le financement fournirait une aide vitale à des milliers de personnes dans le besoin urgent, indique le document. Le conflit armé en cours en RDC, en particulier dans les régions d'Ouvira, de Fizi et de Kalehe, a entraîné le déplacement d'environ 500 000 personnes dans plus de 90 000 vers le Burundi et leur nombre continue d'augmenter chaque jour, précise le communiqué. Sur quelle période s'étale cette aide de l'Union européenne? Qui sont réellement les bénéficiaires et comment cela sera mis en œuvre? Réponse avec vous, Alain Rong.
D'après le communiqué, ce projet de réponse d'urgence sera mis en œuvre jusqu'à la fin du mois de juin 2026 et bénéficiera aux populations déplacées à l'intérieur du pays dans les zones les plus durement touchées d'Ouvira, de Fizi et de Kalehe. Le financement de l'Union européenne soutiendra les efforts de ses partenaires dirigés par le consortium SAFER qui regroupe les structures telles que ACTED, Concern Worldwide, Mercy Corp, le Conseil norvégien pour les réfugiés et solidarité internationale afin de fournir l'aide nécessaire en mettant l'accent sur l'aide en espèces, la protection, l'eau, l'assainissement et les interventions en matière d'hygiène. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo continue d'entraîner des déplacements massifs dans la province du Sud Kivu et dans les pays voisins alors que des milliers de personnes fuient la violence en cours et que leurs ressources locales s'épuisent, conclut le communiqué.
En Ituri, la communauté NT regroupant le peuple Ema salue les efforts du gouvernement en faveur du rétablissement de la paix dans cette province. Cette position a été exprimée mercredi à Bounia lors d'un point de presse animé par les responsables de cette communauté. Ils ont également appelé le chef de la rébellion CRP, Convention pour la Révolution Populaire, à privilégier la voie pacifique afin de consolider cette paix. Cela en vue de permettre aux milliers de personnes vivant encore dans la précarité de regagner leur village et de reprendre une vie normale. Que retenir d'autre de cette intervention, Jean-Claude Loki?
Dans son intervention, le président de la communauté Inté a reconnu que les territoires de Djougou et d'Irumu, autrefois épicentres des violences armées, connaissent progressivement une accalmie. Les activités commerciales ont repris, les routes sont de nouveau ouvertes et praticables, les communautés se fréquentent à nouveau et les massacres des civils sont devenus rares. Cette amélioration de la situation sécuritaire est attribuée aux efforts des FARDC dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, souligne Jean-Claude Ngadjolé, président de la communauté Inté. Toutefois, l'organisation déplore la poursuite des activités de la rébellion CRP dont les actions continuent d'aggraver les souffrances des populations dans plusieurs entités, contraignant certaines familles à vivre dans des sites de déplacés. Elle appelle ainsi les animateurs de ce groupe armé à revenir à la raison.
Nous exhortons aux responsables numéro un de cette rébellion, fils de notre communauté, de ne pas appuyer leur révolution sur le peuple Ema, car le peuple Ema qui en souffre sérieusement, et de penser à la souffrance de ces derniers qui est déjà dans une situation précaire.
Par ailleurs, Inté invite les autres communautés locales à renouer la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, comme par le passé, afin de promouvoir la stabilité et le développement de la province de l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Et toujours en Ituri, 10 cas de viol sur mineurs ont été enregistrés ce mois de janvier dans la chefferie de Babila Babombi, en territoire de Mambasa. Parmi les victimes figure une fillette de 4 ans agressée sexuellement mardi dernier. Le présumé auteur, un homme de 25 ans, a été maîtrisé par la population avant d'être remis aux autorités de la police. Selon l'ONG CRTH, Convention pour le respect des droits de l'homme, les enfants victimes de violences sexuelles ne bénéficient pas toujours de soins médicaux appropriés, leurs parents manquant souvent des moyens financiers pour cela. Au téléphone par Jean-Claude Lokidile, Ramso Maliki Dogo, responsable de cette organisation dans la chefferie de Babila Babombi, déplore cette situation qui met en danger la santé et la vie de ces mineurs.
Nous sommes vraiment en train de déplorer ces énièmes cas de viol et surtout que nous alertons vraiment l'opinion nationale et internationale sur la prise en charge des enfants victimes de ces cas de viol. Ils courent beaucoup de risques, les risques de contamination des maladies sexuellement transmissibles, les grossesses indésirables. Et raison pour laquelle nous alertons vraiment l'opinion nationale et internationale, surtout les organisations internationales, de venir en aide à toutes ces familles victimes dépourvues de moyens parce qu'ils vivent une zone vraiment insécurisée, de venir en aide à toutes ces familles victimes, de pouvoir prendre en charge, d'accompagner ces familles jusqu'à quand même que ces victimes soient à traiter, qu'ils bénéficient que les soins élémentaires pour ne pas être contaminés.
Le cabinet du chef de l'État porte à la connaissance de l'opinion publique un groupe d'individus se présentant frauduleusement et disant appartenir à un service de la présidence de la République dénommé Direction Générale de Contrôles Économiques, Financiers et Administratifs, DGCFA, s'emploie à tromper la population en prétendant à tort qu'il s'agit d'un service rattaché à la présidence de la République. Le cabinet du chef de l'État dément catégoriquement l'existence de cette prétendue structure en son sein et certifie qu'aucune entité de cette dénomination n'y est reconnue ni dépendue. Ni de loin, ces nouvelles délices en Kavira sont rendues par Richard Junior Kamunga.
Il s'agit d'une association fictive montée de toutes pièces dans l'objectif d'escroquer, extorquer et abuser de la confiance des paisibles citoyens en usurpant l'autorité, les noms et l'image des institutions de la République. Plus grave encore, dans le cadre de leur entreprise criminelle, ces individus ont réussi à organiser et à mener certaines activités dans quelques provinces de la partie est du pays en se livrant à une manipulation grossière et à une instrumentalisation de la crédulité publique. Le cabinet du chef de l'État rappelle avec la plus grande rigueur que la présidence de la République ne reconnaît ni les membres cette suite et que tous les actes, documents, convocations, démarches ou prétendues missions posées à son nom sont nuls, frauduleux et ne l'engage en rien. Par conséquent, le cabinet du chef de l'État met en garde la population et l'appelle à une vigilance maximale. Il invite chaque citoyen à rejeter systématiquement toute initiative, collecte, convocation, intimidation ou activité émanant de cette prétendue Direction générale de contrôle économique, financier et administratif et à dénoncer immédiatement les auteurs auprès des autorités compétentes.
Le parti politique Base républicaine se dit attaché à l'ambition d'un renouvellement de la gouvernance politique en RDC. Son président national, Hugo Zala, a livré cette information hier lors d'un point de presse à Kinshasa. Il plaide cependant pour l'implication de tous les Congolais, de la majorité comme de l'opposition, pour le rétablissement de l'autorité de l'État, la fin du cycle de violence et la restauration de la cohésion nationale. Que retient d'autre Blaise Ndongala?
Dans son speech, le président national de la base républicaine souligne que la prospérité est compromise en RDC à la suite des inégalités de revenus entretenues et institutionnalisées. Hugo Zala regrette que bon nombre de Congolais manquent de travail et très peu de ceux qui travaillent arrivent à subvenir à leurs besoins et à mener une vie digne. Selon lui, l'agression rwandaise, le phénomène Mobondo ainsi que la criminalité urbaine ont mis en évidence les insuffisances des politiques sécuritaires mises en place à travers le pays. La base républicaine rappelle qu'elle reste attachée pour le rétablissement de l'autorité de l'État et de l'intégrité territoriale, la fin du cycle des violences, la restauration de la cohésion nationale et le renforcement de la crédibilité de l'État. Et dans ces contextes, si l'option est levée pour les dialogues, Hugo Zala souhaite que c'est pour parler soit républicaine, respectueuse de l'ordre institutionnel et capable de répondre aux désidératas de la population. Il juge par ailleurs important que ces dialogues ne se constituent pas en tribunal, ce qui n'encouragerait pas la cohésion, sans oublier la nécessité d'établir la responsabilité sur toutes les atrocités constatées et d'envisager des actes de réparation.
Dans la province du Maniema, les enseignants du Kailo ainsi que ceux de l'Axe Nyoka et des environs ont décidé de suspendre leur mouvement de grève lancé le 6 janvier dernier. L'annonce a été faite mardi par leur représentant et porte-parole Stéphane Misinga lors d'une adresse à la presse à Kindu. Il affirme que cette décision de reprise de cours fait suite au paiement de 2 mois d'agrégés de salaire, soit novembre et décembre, mais aussi à la réception d'une correspondance du président de l'Assemblée provinciale. Cette lettre confirme des avancées significatives dans les démarches visant à transférer les enseignants de la Caritas vers une autre banque pour la paix. Stéphane Misinga invite ainsi ses collègues à reprendre les cours dès ce mercredi 21 janvier, donc hier déjà, en attendant l'aboutissement complet du processus de délocalisation bancaire. Florence Tizalunga nous en dit plus.
Depuis la reprise des cours le 6 janvier, après les vacances de Noël et de Nouvel An, les écoles publiques de Kailo étaient paralysées par la grève des enseignants. Une situation qui pénalise les élèves, lesquels perdent 2 jours de cours sur les 222 prévus dans les calendriers scolaires. L'implication de l'Assemblée provinciale redonne de l'espoir aux enseignants. Leur porte-parole, Misenga Chamilungo Stéphane, salit ses avancées.
Notre première institution de la province de Maniema nous a donné une correspondance témoignant que des trimestre, nous allons quitter à la Caritas. Les enseignants qui soient toujours apaisés avec la décision prise à Kinshasa, qui prennent leur mal en patience. Deuxième trimestre, nous aurons à nous séparer avec la Caritas. Ils vont nous fixer dans l'une des banques payées ici à Kindu. Si jamais la lettre nous octroyée par le président de l'Assemblée provinciale du Maniema serait sans succès, la grève sera reprise. C'est-à-dire, en tant que le porte-parole des enseignants et les syndicalistes, je suspends la grève et non la levée.
Par ailleurs, le porte-parole appelle les parents à envoyer leurs enfants à l'école afin qu'ils puissent reprendre l'apprentissage. Ce mercredi matin, peu d'élèves étaient toutefois présents dans les établissements. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Une équipe du ministère de l'enseignement supérieur universitaire est annoncée à Kolwezi dans la province du Lualaba. Sa mission, évaluer la situation du centre universitaire de Kasaji. Cette institution a été récemment fermée par le recteur de l'université de Kolwezi, conformément à l'arrêté ministériel du 4 novembre 2016, interdisant le fonctionnement des extensions des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette décision a suscité des vagues de protestation des étudiants. Ces derniers revendiquent l'autonomisation de leur centre qui fonctionne depuis plus de 2 décennies. Intervenant dans le magazine Okapi Service, le professeur Célestin Mutombo, conseiller scientifique au ministère, lance un appel au calme. Il annonce une descente imminente, une mission d'enquête. Il est au micro de Jody Daniel Kachama.
En tout cas, je profite d'abord de l'occasion pour lancer un appel au calme, d'autant plus que la mesure est préventive. Son Excellence, Madame le ministre, a déjà pris le devant. Au moment où je vous parle, je ne vais pas entrer dans les secrets du cabinet, il y a une équipe qui prend l'avion, si pas demain ou après-demain, qui s'en
qui va descendre à, qui va sur descendre à Kassagé.
Oui, exactement. Et cette équipe-là a comme mission d'évaluer la situation et de faire ce qu'elle doit faire, afin de proposer les alternatives à son excellence. Et au moment actuel, que les auditeurs m'excusent, je ne peux pas me mettre à la place de l'équipe qui va descendre et puis proposer des solutions. C'est maintenant. Gardons notre aimant la patience. D'ici là, son excellence se prononcera quand on sait. Donc, il faudra attendre et son excellence prendra les mesures idoines parce que c'est elle la patronne du secteur. Alors, que les étudiants qui, pour l'instant, ne sont pas autorisés à aller suivre les cours soient calmes. Rien n'est perdu.
Actualité internationale.
Les autorités de transition de Guinée-Bissau ont officiellement fixé au 6 décembre 2026 la date des prochaines élections présidentielles et législatives. Cette annonce faite par décret présidentiel hier intervient environ 2 mois après le coup d'État qui avait interrompu un double scrutin pourtant jugé libre et transparent par les observateurs internationaux.
L'invité.
L'arrestation en République démocratique du Congo de certaines personnes, notamment des opposants politiques, suscite plusieurs interrogations. Un mois après l'arrestation du secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Shadary, en décembre dernier, c'est le tour du vice-président de ce parti politique et ancien président de l'Assemblée nationale, Obaminako, la nuit de samedi à dimanche dernier. Dunia Kilanga, Parole Kamizelo et Nathanael Onokomba s'ajoutent à la liste. Cette problématique a fait l'objet du débat dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi. Chaque intervenant à cette émission a exposé son point de vue à ce sujet. On les écoute au micro de Guy Maté.
Fumototo Basanga, vous êtes initiateur de la troisième voie et membre de l'Union sacrée de la Nation. Quel lecture vous faites de toutes ces arrestations?
Le PPRD, au moment où nous parlons, est un parti qui est dans une rébellion soutenue par une agression.
Ah bon, ça vient de vous?
Il faut que... Oui, mais il n'y a pas de débat.
Ça vient de vous?
Le président national du PPRD qui? C'est Joseph Kabila. Et lui-même, notre justice, l'a retenu comme qui? Intelligence avec l'ennemi. Et l'ennemi sur le Rwanda. Il y a des poursuites judiciaires sur les personnes membres d'un parti politique qui a une branche armée. Ces deux personnes-là, Obaminako et Emmanuel Ramazan, ont été interpellées il y a plus de 6 mois par la justice militaire d'ailleurs. Et vous croyez qu'il n'y avait pas de grief sur eux? Maintenant, c'est la continuité de quelque chose qui a commencé. Mais l'autorité de ce parti-là est agresseur de la République, agresseuse de la République. Et son parti politique est en train de relayer un message qui n'est pas démocratique. Et lorsqu'il y a des poursuites judiciaires qui ont déjà commencé aussi au vu de tout le monde, il y a de cela 5 mois, on dit qu'il y a seulement sur les opposants. Mais il y a beaucoup d'opposants et beaucoup de partis politiques et d'opposition. Quel est le pourcentage des opposants ou des partis politiques et d'opposition qui connaissent l'acharnement du pouvoir?
Émile Assani, vous êtes député national élu de Kindu sur la liste LGD, parti de l'opposition dont Matata Ponyo est le leader. Vous êtes également avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comment vous comprenez ces arrestations de certaines personnes, notamment des opposants?
Monsieur Guy Maté, laisse-moi vous dire que c'est avec beaucoup de peine que j'ai suivi mon co-débatteur, Monsieur Fumuntoto. J'ai retenu beaucoup de contradictions. Je ne suis pas le seul. Au vu de vos questions pertinentes, j'ai compris que vous avez aussi relevé beaucoup de contradictions. Monsieur Fumuntoto allègue, affirme ici que Monsieur Ramazani Shadary et Obaminako ont été arrêtés parce qu'ils ont une branche armée. Le PPRD a une branche armée. Et c'est pour ces raisons qu'ils ont été arrêtés. Tantôt, il dit non, parce que leur autorité morale est aussi autorité morale du M23. Et vous avez si bien rappelé qu'en droit pénal, on dit que la responsabilité pénale est individuelle. On ne peut pas arrêter M. Guy Maté pour les faits répréhensibles qu'aurait commis Honorable Émile Assani. J'aimerais, au-delà de ça, relever aussi. Monsieur Fumuntoto réagit en disant, écoutez, nous avons combien de partis politiques de l'opposition, et lorsque vous voyez les cas d'arrestation en termes de pourcentage, c'est un pourcentage minime. Comme qui dirait pour lui, lorsqu'on tue une personne, il faut attendre le décès de 1000 personnes pour que les autorités soient interpellées.
Merci, on a compris. Maître Timothée Mbouya, vous êtes président de Justicia Asbel, une ONG de défense des droits de l'homme. Quelle est la lecture, n'est-ce pas, que vous faites, vous, en tant que défenseur des droits humains, de toutes ces arrestations?
Ce qui se passe aujourd'hui est inqualifiable. Et je suis malheureux de l'entendre que l'on dise que ces personnalités ou ces personnes sont arrêtées ou sont interpellées, alors que en regardant bien la réalité de ce qui se passe sur terrain, il n'y a ni arrestation ni interpellation, mais il y a purement et simplement enlèvement. On est dans un état de droit, comme mon prédécesseur venait de le dire, l'honorable, mais dans un état de droit, on n'enlève pas les citoyens. On les invite à venir répondre aux institutions ou à la justice ou aux services qui sont habilités à les entendre. Mais quand on vient, on enlève les gens nuitamment, sans mandat. Non, mais je crois que ne rentrons pas dans des considérations purement académiques. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les opposants et certains citoyens de la société civile ou des citoyens congolais de manière générale sont aujourd'hui ciblés par le CNC qui va même au-delà de sa mission.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci Guy, c'est la fin de ce journal préparé par Richard Junior Kamonga, mis en onde par Pierre Diassinois. Madame, Monsieur, merci de l'attention que vous nous avez accordée. Bonne journée.